Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast. Cette semaine, j'ai reçu Stéphane Aubé. Stéphane, c'est un expert en nutrition. Il a travaillé longtemps avec Christian Thibodeau. Et cette semaine, dans l'émission, on parle justement d'alimentation, plus précisément de nutrition pour la perte de gras. Donc, si en ce moment, tu as un objectif de transformation physique, ce qui est à dire que tu veux gagner de la masse musculaire et perdre de la masse adipeuse, certainement que tu vas retrouver quelques bons conseils au travers la discussion que j'ai eue avec Stéphane dans le podcast. Alors, j'espère que tu vas apprécier l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Steph, merci d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui. Écoute, Stéphane Aubé, ça fait longtemps que tu es dans le monde du coaching, dans le monde de la nutrition. Mais pour
une
les gens
une couple d'années,
puis pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu prendre le temps de te présenter? Moi je te connais parce que, comme je te disais tantôt, j'ai déjà participé à des formations que tu présentais dans le passé, mais juste te présenter aux auditeurs, auditrices du podcast, qu'est-ce que tu fais, puis où ton intérêt vers la nutrition puis l'entraînement a commencé aussi, là, parce que ça fait longtemps que tu es là-dedans, fait que
un petit wrap-up de ça. Oui, ben dans le fond, moi, ben, je dirais ça fait peut-être 18 ans que je suis dans le domaine, dans l'industrie. C'était très différent à l'époque, évidemment, quand j'ai commencé, la formation qu'on allait chercher, l'information qu'on allait chercher aussi, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. On s'entend, là, tu sais, il y avait les médias sociaux, ça commençait à être plus trendy, mettons. Il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'Instagram. Là. C'est Facebook était comme... On commençait à triper, là, tu sais.
Ouais.
Mais moi, j'ai commencé par avoir un intérêt dans la musculation, puis dans le bodybuilding, dans le fitness. Évidemment, ça m'a demandé à aller chercher des connaissances en nutrition parce que une grosse partie de tout ce qui est composition corporelle, bien, ça passe par la nutrition. Donc, évidemment, en commençant à m'entraîner, j'ai eu un intérêt pour ça. J'ai été chercher de la formation là-dedans. Mais mon premier vrai travail dans le milieu, dans l'industrie du fitness, ça a vraiment été sous la tutelle de Christian Thibodeau. J'ai commencé à travailler pour lui. Donc, je coachais sa clientèle. J'ai commencé à être introduit un peu à sa philosophie de l'entraînement. C'est quelqu'un que je suivais déjà sur les réseaux sociaux. Les forums. Ouais, parce T-Nation. Qu'à l'époque, il y avait des forums, tu sais.
Ouais. Plus sur T-Nation, j'imagine.
C'était sur T-Nation, mais même avant ça. Ouais. Je pense que c'était, comment ça s'appelait? Je pense que c'était Iron Mag.
Oh, shit, OK.
Alors, c'était vraiment vieux, là. On n'est pas d'hier, là. Ceux qui sont en bas de 30 ans ici n'ont aucune idée de quoi qu'on parle, là.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai connu T-Nation, mais Iron Mag, je sais de nom c'est quoi, mais j'ai pas connu
C'est avant. C'est avant. Ouais, mais bref, tu sais, à cette époque-là, c'est là qu'on allait chercher des informations. Parce que tu avais les magazines de fitness où tu avais qui servaient généralement plus à vendre des suppléments qu'autre chose. Puis tu avais les forums où tu avais le monde qui faisait ce qu'on appelle le real talk, là, tu sais. Mm-hmm. C'est comme les vrais tricks du milieu qu'on allait chercher là.
Ouais.
Bref, tout ça, j'ai connu Christian Thibodeau qui, lui, m'a comme fait entrer un peu dans ce monde-là. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à faire ma propre clientèle aussi avec les années. Et je me suis spécialisé un petit peu plus dans la nutrition, comme j'ai dit précédemment, à cause de mon intérêt pour le fitness, la composition corporelle. Mais c'est aussi ce qui me faisait triper beaucoup. J'aimais beaucoup comprendre comment modifier la composition corporelle, comment est-ce qu'on pouvait créer des changements drastiques, des transformations physiques. Simplement par un changement d'alimentation, par le contrôle de certains macros et le fait aussi qu'il y a un certain trend qui se bâtisse avec les années. Tu sais, il fait un temps où ce que bon, tout ce qui est les diètes keto, la guerre du high carb, low carb, le vegan qui est rentré, ben tu sais, je veux pas, ça moussait un peu mon intérêt à savoir, à comprendre exactement comment ça fonctionnait tout ça, puis à savoir s'il y avait un réel potentiel dans ce genre de diète là. Donc, évidemment, j'ai travaillé de près et de loin avec Christian et T-Nation aussi. Après ça, j'ai parti mon propre brand en 2014, si je ne me trompe pas, avec Hungry for Victory. C'est là que j'ai commencé à suivre la clientèle en ligne aussi. Donc, j'ai développé mes programmes en ligne et toujours en étant un peu hybride. J'ai toujours travaillé dans les gyms en même temps. Donc, je fais toujours un peu d'en ligne et de coaching sur place aussi. J'ai graduellement participé au début de Tibarmy, donc qui était la business en ligne de Christian Thibodeau. Donc, j'ai travaillé avec lui pour développer un peu le côté du online coaching avec ça, tous les facteurs nutrition là-dedans, le neurotyping aussi.
Ouais, je pense que tu as participé beaucoup volet nutrition avec le neurotyping. Volet nutrition,
exactement. Ouais. Christian avait déjà comme établi un peu les bases de ça. Il avait déjà son idée où ce qui s'en allait avec, mais c'était peut-être juste de trouver comment intégrer la nutrition à ça, puis d'y donner une suite avec le facteur entraînement qui était dans le neurotyping. Donc, ça a été une belle expérience aussi là-dessus. Ça m'a permis d'approfondir beaucoup mes connaissances à un autre niveau que juste les macros. Ouais. Donc là, on rentre beaucoup dans la micronutrition. Donc, ça a été très, très pédagogique, éducatif. Puis après ça, bien évidemment, moi, j'ai continué à développer mon brand de mon côté. Je travaille étroitement depuis plusieurs années avec Expertise 360 aussi, qui est une plateforme de contenu éducatif pour les coachs majoritairement. Donc, donner des séminaires, donner du contenu éducatif. Donc, ça, c'est toujours... Ça fait plusieurs années que je travaille avec eux autres pour ça, puis ça va continuer aussi. Je pense qu'il y a vraiment une bonne panoplie de coachs sur Expertise 360 qui ont une bonne expérience, des bonnes connaissances. Si les coachs sont intéressés à avoir du format éducatif, c'est là-dessus qu'on trouve ça. Donc, et nous voilà aujourd'hui, je me trouve sur ton podcast aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. gros parcours, Steph, résumé en genre 5 minutes. Là.
Ouais, ben tu sais, je veux dire, je pourrais aller dans le détail. J'ai fait du bodybuilding aussi jusqu'en 2017. J'ai pratiqué certains autres sports aussi. Je pense que l'essentiel, c'est de comprendre, autrement dit, que j'ai fait un petit peu de tout dans cette industrie-là. Mais principalement, la nutrition a toujours été mon volet favori, je dirais.
Ouais, exact. Donc, puis tu sais, je me souviens, moi, T-Nation, by the way, T-Nation, là, il y avait encore aujourd'hui, mais dans le temps où ce que les experts publiaient beaucoup plus sur T-Nation, il y avait de la Christie de bonne info, là, qui est encore là aujourd'hui. Puis je me souviens dans les clips que Christian faisait, t'étais souvent là, right? C'est toi qui faisais les démos d'exercices dans ton jeu.
J'ai servi longtemps de model pour les clips. En fait, on avait. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'en 2010, si je ne me trompe pas, T-Nation voulait monter une banque d'exercices, puis se placer stratégiquement sur Google pour faire en sorte que, par exemple, si tu cherches how to do bench press ou how to do squat, ben c'est autrement dit une des capsules de T-Nation qui sort. Donc, tu as une capsule YouTube de T-Nation qui t'amène finalement sur leur YouTube. Fait qu'ils avaient engagé moi et Christian pour aller tourner finalement ces exercices-là directement au HQ de T-Nation, qui était l'usine de base, l'entrepôt de BioTest.
Au
Colorado, exactement. Ouais. Donc, on avait été engagé pour passer, je ne me rappelle plus, je pense, une semaine là-bas pour tourner comme... je sais pas, je pense 480 exercices d'entraînement. Puis, bref, ma collaboration avec eux autres a commencé là. Puis, évidemment, ben là, après ça, c'est que toutes les vidéos qui apparaissaient sur les réseaux sociaux et sur Internet, ben, il y avait moi et Christian. Il y avait moi qui exécutais et Christian qui expliquait.
Il n'y en pas encore aujourd'hui, malgré, tu sais, moi, j'en vois souvent sortir. Puis...
ça fait peur, en fait, parce que moi, je me vois il y a genre 13 ans. Fait que, comme, wow!
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais bref, mais c'est ça, tu sais, comme pour... T'as un solide parcours, Steph, puis t'es un brain, tu sais, fait qu'on va se le dire.
Merci.
C'est pour ça que je suis content de t'avoir sur le podcast, puis justement, on voulait parler ensemble de nutrition pour la perte de gras, fait comme un gros titre qui va accrocher bien du monde. Puis je voulais parler de ça avec toi parce que voilà 2 semaines, tu as fait une formation à Québec, si je ne me trompe pas. Toi, tu habites à Québec?
Oui, j'habite sur la rive sud de Québec. Je suis à Lévis, moi. Okay, et la formation était au Tonic CrossFit à Saint-Fort. Okay,
fait que là, je trouvais ça cool de parler de ça avec toi. Je pense qu'on va avoir bien des choses à parler parce qu'au final, pas mal tout le monde qui écoute le podcast, tout le monde mange dans la journée. Puis tout le monde veut.
Drôle de coïncidence, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Puis souvent, on écoute un podcast sur l'entraînement, la nutrition, on veut se mettre en shape. Puis qui dit en shape, on veut perdre du gras, puis gagner la masse, puis avoir une belle composition corporelle au travers de tout ça. Fait que je pense qu'on va vraiment donner des outils aujourd'hui aux gens. En fait, principalement à toi, tu vas donner des outils aux gens pour optimiser leur nutrition, puis après ça, que chaque personne reparte avec une petite nugget un petit plus, qui sont capables d'appliquer dans la semaine ou dans la journée même. Là. Fait que, tu sais, puis juste mettre la table là-dessus, la nutrition pour la perte de gras, là, écoute, en 2023, aujourd'hui, on entend tellement d'affaires à gauche puis à droite. Je pense que même pour les coachs, nous autres, on vient qu'à être perdus là-dedans, puis on a besoin toujours de faire des formations pour se maintenir à jour, puis être update là-dedans, parce que ça change tellement. Puis à un moment donné, on lit plein d'articles à gauche, à droite, des études, des podcasts, whatever, puis là, on dit, wow, shit, OK, c'est quoi au final? Là? Fait que, puis là, je dis, imagine monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas vraiment de formation, de connaissances là-dedans, bien là, ça devient encore plus, ça devient une jungle, puis là, on sait plus trop où se garrocher, puis.
Fait que, ben, c'est
comment
sûr
tu vois ça, toi?
Ben, en partant, faut comprendre que la nutrition, comme toute autre science dans la vie, c'est quelque chose qui est évolutif. Dans le sens que plus on avance dans la science, dans les recherches, plus on découvre des choses. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que comme l'entraînement d'ailleurs, il y a des trends là-dedans aussi. Tu sais, il y a des modes qui se développent et ces modes-là sont beaucoup influencés par les influenceurs de ce monde. Évidemment, tu sais, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les gens, entre des influenceurs puis des vrais coachs ou des experts aussi, parce que c'est trois choses différentes. Tu sais, l'expert est quelqu'un qui va apprendre à comprendre la science, à être capable de l'expliquer et trouver peut-être les meilleures avenues, les meilleures approches pour, disons, dans ce cas-ci, la perte de poids, par exemple. Le coach, lui, en tant que tel, c'est celui-là qui est sur le terrain et c'est lui qui jase avec le client. Donc, lui, il faut qu'il prenne les informations que l'expert va transmettre. Il faut qu'il soit capable de les vulgariser et d'en créer une stratégie applicable pour le coach de tous les jours, pour le client de tous les jours, le monsieur, madame, tout le monde, qui, lui, a sa vraie vie à vivre et doit appliquer ces notions-là. T'as l'influenceur qui, lui, finalement, son but, c'est de se faire des followers. Son but, c'est d'acquérir un fan base. Et malheureusement, dans les réseaux sociaux, tu gagnes pas beaucoup de followers quand t'es vague, quand t'es dans la zone grise. Généralement, on gagne des followers quand on adhère à quelque chose de manière précise, quand on est dans le noir ou dans le blanc. Exact. Ça, c'est le plus gros problème parce que le gym rat moyen ou le monsieur, madame, tout le monde qui va aller sur les médias sociaux va être réconforté en se faisant dire que les carbs, c'est pas bon ou que les carbs, c'est bon. Dans le sens qu'il y a besoin de quelque chose, un bold claim, il y a besoin de quelque chose de bien précis parce que c'est réconfortant. Il n'y a rien de plus insécurisant que se faire dire ça dépend. C'est ça. Sauf que la vraie vie, c'est que ça dépend.
Exact.
Fait que, donc, ça, c'est la première chose, c'est de faire la différence là-dedans. Ensuite, il faut comprendre que la science, c'est une chose. Sauf que ça, c'est un autre concept que l'industrie perpétue mal, je dirais. C'est que les études scientifiques, il ne faut jamais oublier que c'est juste une compilation de data dans un contexte donné. OK? Et ce contexte-là, il n'est pas nécessairement relatif à tout le monde. Tu sais, puis en plus, on peut faire dire ce qu'on veut à une étude. On peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres. C'est une question d'interprétation. Ça, c'est une chose. Puis après ça, tu as l'autre partie où tu as beaucoup de gens ou de semi-experts, pseudo-experts qui ont commencé à s'intéresser justement à des études. Sauf que comprendre et lire une étude, c'est deux choses. Tu sais, ça revient au volet de l'interprétation de l'étude. Et là, si tu as des gens qui ne sont pas capables de lire des études et qui commencent à lire ça, mais qui ne sont pas capables de les comprendre et vont aller perpétuer cette connaissance-là, ce pseudo-connaissance-là à leurs clients, là, il y a il y a de la fausse information et de la mésinformation qui est livrée. Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un peu le constat qu'on voit, c'est que autant l'information est facilement disponible, autant la mésinformation est facilement disponible aussi.
Ouais, 100%.
Je pense que c'est ce qui fait que tout le monde est mêlé là-dedans aussi.
Ouais.
Parce que là, tu en as qui adhèrent à certains types de diètes, qui disent que ça, c'est la meilleure affaire au monde. T'en as d'autres qui vont dire l'inverse. Puis là, le monde ne savait plus où se garrocher après ça. Puis là, ils expérimentent. Puis là, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Fait que c'est quoi la vraie affaire là-dedans, finalement? Moi, c'est surtout ça qui m'a intéressé. Puis de vraiment comme faire le ménage dans tout ça, puis comprendre au fin fond c'est quoi qui fonctionne, puis c'est comment qu'on fait réellement de la perte de poids puis de la transformation physique. Puis il y a un volet qui est beaucoup plus que physique, que psychologique, qui est beaucoup plus psychologique que physique, bien des fois.
Ouais, 100%. Puis, tu sais, je vais juste jumper là-dessus. Tantôt, tu faisais la différence entre un expert, un coach, puis un influenceur, là, mais moi, je le dis souvent à mon équipe de coach, là, un bon coach va être capable de prendre l'information de l'expert ou d'aller dans une formation quelconque, puis de le mettre dans les mots, puis d'être capable de l'expliquer au client. Si tu veux vraiment voir si un coach est vraiment bon, peu importe son champ d'expertise, c'est qu'il est capable de faire comprendre au client de quoi qui est bien complexe, mais de le rendre bien simple pour que le client adhère à ça.
Oui, puis pas juste le faire comprendre, parce que c'est aussi c'est le faire appliquer, puis c'est dans le sens de comprendre. Ça, c'est un des premiers aspects que je trouve important avec un client, c'est de rencontrer le client là où il est en ce moment. Parce que, tu sais, toi, tu peux savoir que ton client, la meilleure manière qu'il puisse perdre du poids en ce moment, c'est de faire tel type d'étape au niveau de la nutrition. Mais si ton client n'est pas rendu là, psychologiquement, il est incapable d'appliquer ça. Tu sais, si toi, tu arrives et tu as un client qui n'a aucune idée c'est quoi une foutue calorie, puis toi, tu y arrives avec un plan avec des macronutriments, il faut qu'il calcule telle affaire, puis qu'il n'a aucune idée pourquoi qu'il le fait, dans quel but, tu sais, même si oui, OK, tu vas perdre du poids, mais il y a une éducation à faire pour se rendre là, autrement dit. Mm-hmm. Fait que je pense que la première chose, c'est que le coach, il faut non seulement qu'il soit capable de vulgariser des informations, il faut aussi qu'il soit capable de comprendre son client, il est où en ce moment? Il est où en ce moment par rapport à son objectif? Puis c'est quoi sa réalité aussi? Parce que c'est une autre affaire, tu sais. Entre toi et moi, là, un programme d'entraînement, là, tu sais, je veux dire, tu peux aller sur Google, tu vas en avoir, là. Un bon coach, c'est pas quelqu'un qui fait un programme d'entraînement ou qui fait une bonne diète. Là. C'est un bon coach, c'est celui qui est capable de faire progresser ce plan d'entraînement-là dans 3, dans 4, dans 6 mois. C'est quelqu'un qui est capable de faire progresser ce plan alimentaire-là sur plusieurs mois, voire plusieurs années, faire en sorte que la personne qui a adhéré à ça puisse adhérer au long terme. Ça, ça demande plus que connaître les macros, ça demande plus que connaître c'est quoi une calorie puis comment ça fonctionne. Ça demande de connaître les effets au long terme de ce que tu vas faire, ça demande d'avoir une vision d'avance. Mais pour ça, ça commence avec savoir où ton client y est présentement dans sa situation.
Ouais, c'est ça. L'importance d'avoir une bonne première évaluation, puis aussi, exact, là, chaque personne débute à un endroit différent, puis c'est de bien saisir la personne, puis de comprendre aussi, comme tu disais, sa réalité, comme une mère qui a 3 enfants, qui travaille 40 heures semaine, puis que les enfants vont en garderie ou font du sport le soir. Écoute, t'as pas la même réalité qu'une fille de 25 ans qui travaille, mais qui n'a pas d'enfants encore.
C'est exactement. Je veux dire, chaque personne a sa propre réalité.
Exact.
Puis tu sais, moi, ce qui me tue à chaque fois, c'est quand je vois justement du monde. Il y a du monde qui vont faire un plan alimentaire avec poulet, riz, brocoli encore, tu sais, je veux dire. Ça va marcher sur un gars, une fille de 22-23 ans qui veut faire du fitness puis qui lui s'en fout. Son seul objectif, c'est de faire du fitness puis de se rendre là. Manger poulet, riz, brocoli, va le faire parce que c'est tout ce qu'il veut présentement dans sa vie. C'est son objectif ultime. Mais le parent en général ou la personne qui travaille 60-65 heures semaine, qui a des stress énormes, qui a 2-3 entreprises, whatever, name it, il y a des responsabilités autres dans la vie qui font en sorte que son poulet riz brocoli, ça se peut que ça ne tente vraiment pas de manger ça tous les jours. Fait que là, il va falloir que tu sois capable de se faire comprendre comment faire des choix. Il faut que tu écris une éducation là-dedans. Tu ne peux pas juste donner une feuille de papier et dire « bon, ben let's go, fais ça, on s'en revoit dans 2 mois », tu sais. Ça amène absolument rien. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on voit des gens qui vont débuter des procédures de plan alimentaire, qui vont débuter à faire de la perte de poids, mais qui n'arrivent pas à leurs objectifs parce qu'il n'y a pas d'adhérence. Et la meilleure diète, en réalité, c'est celle à laquelle tu peux adhérer. C'est celle à ce que tu peux adhérer au long terme. Fait que c'est pas au coach de déterminer, tu vas manger tel type de macro de cette manière-là, parce que, je veux dire, il faut que tu établisses avant tout ce que le client va être capable de suivre. Puis, tu sais, la première chose, c'est, comme je disais, c'est de voir le client, il est où présentement dans son approche. Tu sais, c'est un client qui arrive, qui a des gros problèmes d'embonpoint ou d'obésité, bien, la première approche, c'est peut-être pas de regarder pour faire du nutrient timing, tu sais. C'est ça, tu comprends? C'est, on s'en fout. On s'en fout à quelle heure qu'il va manger sa collation. On s'en fout s'il prend son shake post-workout ou s'il y a ses carbs intra-workout. Honnêtement, c'est la dernière affaire que tu vas regarder. Tu veux y établir une base nutritionnelle pour t'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut. Puis je te dirais même qu'à la base, le déficit calorique est peut-être même pas tant important au départ. Genre, juste de le faire, d'éliminer ce qui est la scrap qu'il y a dans son alimentation, puis d'y donner comme une base nutritionnelle, qui est convenable pour commencer à y faire perdre du poids. Ben déjà, en partant, tu vas avoir quelque chose. T'sais. Puis comme je dis souvent, souvent je challenge mes clients, surtout ceux-là qui ont comme jamais vraiment fait de diète dans leur vie puis sont nouveaux là-dedans. C'est comme, regarde, voici ce qu'il faut que tu manges. Il faut que tu priorises tes protéines ici. Tu manges un peu de carbs là, un peu de gras là, puis mange la quantité que tu veux. Genre, puis je te challenge d'essayer d'aller en surplus calorique. Puis bien souvent, le monde sont incapables de s'y rendre. Ouais. Parce que du moment que tu manges des aliments qui ont une valeur nutritive élevée puis une densité calorique faible, c'est là que tu te rends compte que, oh boy, manger 2000 calories, c'est pas tant facile que ça finalement.
Ah, ben oui, clairement. De vraies bouffes, là.
De vraies bouffes, exactement, tu sais.
De viande, de patates douces, de légumes, d'avoine, whatever, là. Tout ce qui est comme très. C'est bas en densité, mais très.
C'est très nutritif, exactement. Mais c'est peu calorique. Fait que finalement, tu te retrouves à avoir du volume de nourriture élevé, mais tu as peu de calories en bout de ligne. Ça, c'est une des premières étapes, finalement, qu'il faut réussir à intégrer dans un système alimentaire pour un client, parce que l'industrie alimentaire nous a bourré d'aliments qui sont élevés en densité énergétique. Donc, on s'entend, tu vois, une simple bar town Quaker, je veux dire, tu vas aller chercher facilement presque 200 calories dans quelque chose qui prend pas d'espace dans ton estomac. Exact. En partant, tu sais, puis lors de la formation que j'ai donnée il y a deux semaines, il y a quelqu'un de la formation qui avait amené un commentaire intéressant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on parle de calories vides, justement, tu sais, si on parle de, je sais pas, on va nommer le poster boy des calories vides, mettons, du McDo. On dit que c'est des calories vides, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de densité énergétique, dans le sens que les calories qui sont dedans, là, tu les absorbes très, très facilement. C'est ça le problème. Dans l'industrie des épiceries, on trouve un paquet d'aliments où tu absorbes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie facilement, sans avoir de volume de nourriture. Fait que c'est difficile après ça parce qu'évidemment, le côté satiété n'est pas comblé. Tu vas répéter l'expérience souvent. Va juste te chercher un café chez Starbucks le matin puis prends le spécial d'automne. Là. Café à citrouille, name it, je ne sais pas trop c'est quoi ce qu'il y a dedans. Mais tu sais, tu peux aller facilement chercher 400-500 calories là-dedans.
Ah, c'est fourré là, pour un café.
Tu n'es pas nourri. T'es pas nourri, toi t'as juste bu un café dans ta tête.
Exact.
Fait que, t'sais, c'est un paquet d'affaires comme ça qui font en sorte que les gens vont facilement cumuler des calories sans s'en rendre compte. Donc juste de faire le ménage là-dedans au départ, puis d'essayer de ramener ça vers une nutrition qui a une valeur élevée en micronutriments, mais qui n'a pas une densité élevée au niveau des calories, ben juste ça en partant, ça fait un gros impact. C'est comme la première étape en partant, avant de commencer à faire un plan alimentaire avec des macros stricts et des calories strictes. C'est d'être capable d'amener la personne à juste comme, OK, je fais le ménage de ça, j'enlève ça, puis on y va par étapes pour graduellement s'en aller vers quelque chose de plus nutritif. Ça fait une grosse différence en partant.
Ouais. Puis tu sais, comme, admettons, quelqu'un là en ce moment, il écoute le podcast, il dit, OK, c'est quoi les protéines, les glucides, tout ça? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je mange? Puis tu sais, moi, j'en profite un peu de plugger une citation de Charles Poliquin qui est décédé. Là. Ben, on a fêté son
fêté. Son âme.
5 ans qu'il est décédé déjà. Puis il y avait une citation bien populaire que Charles a toujours dit, c'est que tout ce qui a déjà couru, volé, nagé, qui est vert, qui pousse dans le sol, tu peux le manger. Fait que tu sais, si on est capable de faire un petit wrap-up pour que les gens soient capables de comprendre, là, comme choisis de la bouffe qui est comme qui a déjà couru, fait que de la viande, du poisson, de la volaille, des légumes, tout ce qui pousse dans le sol le plus possible, là, sans dire que tu vas manger 100% du temps ça, mais au moins un 80-90% de ton alimentation devrait se tourner vers cette philosophie-là.
J'adhère à ça jusqu'à un certain point, mais oui, en gros, ça devrait être ça en général. Ouais. Si tu veux te concentrer sur les aliments qui ont les plus grandes valeurs nutritives, ben en effet, tout ce qui a déjà respiré, tout ce qui a déjà marché, volé ou poussé, En effet, tu te trompes pas. Je dirais que la différence, c'est que essaie d'appliquer ça à la population en général,
ouais,
qui est exposée constamment à des types d'aliments qui ne correspondent pas à ça du tout. C'est un peu difficile à créer de l'adhérence au départ là-dessus. Même si je suis totalement d'accord, puis c'est ce que je vais pousser, puisque je suis le premier à dire d'éliminer les aliments transformés, c'est la meilleure chose à faire. Fait que généralement, si tu rentres dans l'épicerie, puis que tu t'en vas dans le comptoir des légumes, après ça, des fruits, de la viande, ben, tu sais, généralement, tu te trompes pas.
Ouais.
C'est quand tu rentres dans les allées que ça se gâte un peu. Sauf que ça ne veut pas dire que un peu d'aliments transformés est problématique.
Ouais.
Mais ce que j'explique souvent aux coachs ou aux clients que j'ai, c'est que lorsque tu commences à essayer de faire justement une restructuration de ton alimentation, c'est facile de retomber dans les anciennes habitudes. Okay? Puis la première chose, c'est d'être capable de développer des habitudes. Ouais. Je vais te faire le parallèle avec quelqu'un qui fume la cigarette et qui veut arrêter. Tu sais, si tu fumes la cigarette, puis tu es addict à la cigarette, évidemment, comme plusieurs, tu veux arrêter de fumer. Ben, tu ne peux pas te dire, ben c'est cool, je vais arrêter de fumer, mais je vais en fumer comme juste 2-3 par semaine. Penses-tu que c'est une bonne solution?
Non, c'est
non,
ça.
Non, tu risques vraiment de recommencer à fumer rapidement. C'est une addiction. Je n'irai pas à dire que la nourriture cause de l'addiction, même s'il y a des discussions là-dessus, mais c'est pas le même type d'addiction que la cigarette, dans le sens que la cigarette, tu sais, si tu décides d'arrêter, tu peux carrément la couper, puis je veux dire, ta vie va n'en être que mieux. Tandis que la nourriture, tu peux pas arrêter de manger. On s'entend, tu sais, c'est comme, t'as pas le choix de continuer à manger. Fait que là, tu deviens face à ton addiction constamment, mais tu dois choisir une meilleure cigarette, autrement dit.
Ouais, c'est ça.
C'est peut-être un mauvais exemple, mais tu comprends ce que je veux dire.
Ouais.
Donc, tu dois choisir de meilleurs, tu dois faire de meilleurs choix. Mais tu es constamment confronté à ça, tu sais. Donc, c'est sûr que le fait de couper tout aliment transformé peut rendre la chose compliquée. Puis maintenant, il faut faire aussi la classification des aliments transformés. Parce que, encore une fois, je vais donner un exemple. La protéine en poudre, c'est un aliment transformé. Je veux dire, l'idée, c'est de te faire prendre 25 à 30 grammes de protéines facile à avaler. Mais on s'entend, c'est un bon aliment transformé. Donc, il y a certains aliments transformés qui peuvent avoir leur valeur. Je vais aller à l'extrême du spectrum. Si on regarde à l'époque, c'était bien gros la mode quand Michael Phelps avait fait les Olympiques et qu'il expliquait ce qu'il mangeait, tu sais, qu'il mangeait comme 6-7 000 calories par jour. Le dude ne peut pas manger 6-7 000 calories de poulet, de dinde, puis de riz puis de patates. On s'entend, c'est impossible. Fait que évidemment qu'il va avoir beaucoup d'aliments transformés. Donc, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça dépend jusqu'où les aliments transformés et denses en calories peuvent être avantageuses. Tu sais, j'entraîne des bodybuilders qu'il faut qu'ils mangent. J'ai des bodybuilders qui vont manger 4500 calories par jour. C'est sûr qu'à quelque part, on va rentrer de la nourriture plus dense à un moment donné. T'sais, on n'a pas le choix.
Oui, c'est sûr. Exact.
Fait que c'est de comprendre justement c'est quoi le client. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est quand je vois justement des coachs de bodybuilding qui vont utiliser les mêmes méthodes qu'ils font en bodybuilding pour quelqu'un qui est dédié à ça. Ils vont appliquer la même règle à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas du tout le même parcours. C'est pas du tout la même vie, la même réalité. Puis c'est pas du tout les mêmes objectifs. Parce que monsieur de 38-40 ans qui arrive, qui dit « Moi, je veux juste avoir des abdos un peu. » Le gars, il veut pas dire qu'il veut être shred à 5% de gras, là. Il veut juste avoir une meilleure shape un peu. Fait que t'as pas besoin d'utiliser tous les outils du spectrum du bodybuilding puis du fitness pour ça. Même chose chez la fille qui veut juste améliorer sa shape un peu, développer sa masse musculaire un petit peu, tu sais. Faut pas utiliser les mêmes outils. Fait que moi, je pense que c'est vraiment dans la compréhension en premier d'expliquer un peu la base puis c'est quoi que tu as l'intention de faire au client. Puis moi, je pense que d'éliminer les aliments transformés est un des gros points. Mais malheureusement, tu ne peux pas les éliminer entièrement.
Ouais.
Après, c'est impossible parce que les gens ont une vie puis ils vont aller souper chez ma tante puis ils vont manger la grosse lasagne qui est là.
Ouais.
Faut que tu essaies de faire comprendre qu'une question de contrôle et à la base, ben moi, je travaille beaucoup avec la satiété en premier. Fait que c'est de créer de la satiété au maximum. Fait qu'évidemment, les protéines sont les meilleures pour ça. T'sais. Les protéines vont vraiment comme aider à faire... En fait, même... Les protéines vont libérer du GLP-1, en fait, qui est produit par l'intestin, qui est un peu, au final, la même chose que toutes les médications pour la perte de poids qui sortent qu'on entend récemment. Puis finalement, au final, c'est un moyen naturel d'aller chercher le même effet. Donc, tu sais, les protéines vont avoir cette notion de satiété-là qui est très élevée. Fait que ça va être de jouer au niveau de la satiété en premier, faire en sorte que ton client, il n'a pas faim. Parce qu'il n'y a rien de pire que ton client qui a faim pour faire en sorte qu'il débarque du plan.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Tu sais, tantôt, tu disais l'analogie de la cigarette, là, puis je me souviens, Matt Bouchard, dans une formation, tu dois connaître Matt, là, probablement.
Un peu, oui.
Ouais, OK. Puis il disait, tu sais, des fois, j'aime ça avec monsieur, madame, tout le monde, on a toujours entendu dire comme manger 4, 5, 6, 7 repas par jour à la fitness, à la bodybuilding. Sauf que pour la plupart du monde, des fois, 3 repas par jour, t'as juste besoin de ça, des collations au besoin. Puis disais, en plus de ça, c'est que tu disais à quelqu'un qui comprend pas trop la base de la nutrition, puis tu dis, OK, voici 3 repas plus 3 collations, puis il faut que tu manges à toutes les 2-3 heures. Puis ça me fait penser à ton analogie avec la cigarette, c'est qu'il dit, à la place de donner 3 possibilité de faire des mauvais choix, là, tu en donnes 6.
Absolument.
Fait, absolument. C'est comme, faut comprendre ça, là. Fait que, des fois, c'est...
Ouais, c'est aussi tout ce que tu fais quand tu crées un plan alimentaire, tu peux facilement ajouter un stress dans le quotidien de quelqu'un. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, si tu as quelqu'un qui, lui, là, manger 6 repas par jour, là, c'est stressant. C'est stressant parce qu'il est obligé de prendre du temps qu'il n'a pas pour ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais... Est-ce que ça va faire une si grande différence qu'il en mange juste 3 ou qu'il en mange 6? Je veux dire, pour les résultats qu'il cherche, non. Tu sais, il n'y a pas de différence en bout de ligne. T'sais, l'important, c'est qu'il aille chercher finalement le total calorique qu'il a besoin. Parce que oui, on s'entend que l'entrée calorique versus la dépense calorique est importante, mais il faut que tu réussisses à mettre le client dans un format où il va être capable de respecter ça. Ah oui. Il faut que tu y simplifies la vie. Ouais. Si tu réussis à simplifier la vie autant que possible, au point où justement ça devient quelque chose de réalisable pour lui à tous les jours, bien là, tu vas avoir de l'adhérence. Ça va dans, oui, en effet, la fréquence des repas, ça va dans le choix de repas, le type d'aliment que tu vas y faire manger. T'sais. Fait qu'il y a des étapes là-dedans. Un peu comme quand tu fais de l'entraînement, tu commences pas à mettre ton client sur des clusters au squat. Ça fait pas de sens, tu sais. Genre, le gars, il a de la misère à lifter 75 livres, genre, tu sais. Fait que tu commences pas avec ça. Non, tu vas commencer par quelque chose de beaucoup plus simple. Tu vas commencer par quelque chose qui permet que chaque fois qu'il va venir au gym, il va enjoyer ce qu'il fait un peu. Et graduellement, tu vas l'amener vers du mieux. Ben, c'est un peu la même chose. En fait, c'est exactement la même chose dans l'alimentation. Commence avec des méthodes simples. Puis, une chose aussi, c'est qu'on le sait que, grosso modo, là, l'amélioration des marqueurs sanguins de santé, là, ça passe par la perte de poids en premier. Okay? C'est vraiment la perte de poids. Donc, quand tu as des... Je vois du monde qui ont de l'embonpoint ou qui sont limite obèses. Le premier réflexe, c'est juste de leur faire perdre du poids. Whatever la solution. Whatever la méthode alimentaire que tu utilises. Fait que oui, tu veux créer des bonnes habitudes alimentaires, mais tu sais, en premier, c'est de le faire adhérer à une structure. Juste une structure. Un peu comme quand tu fais ton entraînement dans le gym, c'est une structure. Ton client, tu lui as fait un programme qu'il aime, il vient 3 fois par semaine. Ton but, c'est qu'il vienne 3 fois par semaine, encore dans 6 mois, puis encore dans 1 an. Si tu peux faire la même chose avec ton plan alimentaire, puis qui est capable d'adhérer au repas que tu mets là, tu es capable d'adhérer, puis même si c'est pas parfait, tu es capable d'adhérer à une structure, ben cool, dans 3 mois, dans 5 mois peut-être, on va être capable d'improver cette structure-là, puis graduellement s'en aller vers quelque chose de mieux. Donc, tu vas déjà avoir commencé à avoir des résultats, t'sais.
Ah oui, c'est ça. Tu sais, c'est un peu toujours de la négociation que tu fais avec les clients. C'est comme, là, mettons, quelqu'un qui s'assoit devant toi, puis là, tu me dis, OK, bon, ben détaille-moi un peu qu'est-ce que tu manges dans une journée. Bon, t'es-tu prêt à faire ça, oui ou non? Ouais, je me semble que c'est un peu trop pour l'instant. All right, t'es-tu prêt à négocier sur d'autres choses? Puis là, il faut avoir un intérêt d'entente avec la personne, dire, OK, pendant 2 semaines, moi, je m'attends à, on a négocié quelque chose ensemble, c'est un contrat qu'on signe, ben qu'on s'entend que, je m'attends que, tu as modifié quelques trucs au niveau de ton déjeuner, puis dans 2 semaines, on fait un recap sur ça.
Tu viens toucher un excellent point que j'aime beaucoup, en fait, puis que j'essaie beaucoup de donner dans mes séminaires. C'est que c'est important de rendre le client responsable de ses propres changements. Parce que un des gros problèmes qu'on a dans cette industrie-là, c'est que les coachs ont une méthode de coaching qui est ce qu'on appelle coach-centric. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent les plans. C'est leur stratégie à eux, c'est leur façon de faire, puis ils l'imposent au client. Là, le client se retrouve dans une approche qui, peut-être, lui ressemble pas du tout, qui n'est pas du tout son univers. Moi, je préfère un coach qui va appliquer une approche qu'on appelle client-centric, donc qui est centré sur le client, c'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire pour modifier ton alimentation? Par quoi on peut commencer? S'il n'y a aucune idée, tu peux lui donner des pistes. Bon, ben, regarde, moi, ce que je verrais avec toi, c'est de commencer par qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des protéines? Ton alimentation actuelle, que tu auras au préalable évaluée, ben, manque solidement de protéines. Donc, l'idée, c'est de te faire manger des protéines. Fait que, qu'est-ce que, dans une liste que j'ai ici, mettons, qui serait idéale, qu'est-ce que toi, tu serais prêt à manger combien de fois par jour? T'sais? Et de graduellement amener le client à faire ses propres choix. Toi, tu es là pour le diriger dans ces choix-là. Mais si tu fais ça, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une adhérence. Le client a fait ses propres choix. Moi, souvent, quand j'évalue, justement, je fais des mises à jour, je regarde ce que le client a fait, puis je suis comme, bon, ben cool. All right, on a réussi à réaliser telle affaire. Là, maintenant, où est-ce qu'on est rendu? Toi, tu ferais quoi pour améliorer ce plan-là? Qu'est-ce que tu verrais là-dedans? Puis là, ben, le client, il va te trouver quelque chose parce que, je te dirais qu'en général, les gens le savent. On est en train, on se dit depuis tantôt que les gens ne savent pas, puis je comprends cette notion-là. Mais au fin fond, en général, la règle générale, les gens le savent. Ils ne savent peut-être pas les détails, ils ne savent peut-être pas la notion avancée de tout ça. Mais les gens le savent en général. Ils ont souvent juste besoin de quelqu'un pour les pousser un petit peu, puis faire comme, regarde, c'est par là, faut que tu t'en ailles. Du moins pour les. Du moins pour les premiers temps. Il va venir un temps à un moment donné où, ce que, après un certain temps, après avoir évolué là-dedans, oui, il va avoir des plateaux. Puis là, les notions de coach, les connaissances plus approfondies, plus avancées peuvent devenir nécessaires. Tout ce qui touche les adaptations métaboliques et tout ça, ça va devenir nécessaire de comprendre ce qui peut s'en venir puis comment est-ce qu'on peut jouer avec ça. Mais à la base, le client peut faire une grosse partie de sa planification pratiquement lui-même, dans le sens où le coach est présent, mais tu es là pour l'accompagner là-dedans, tu n'es pas là pour lui imposer des choses.
Oui, c'est ça, exact. T'sais, c'est pour ça, comme tu reviens, tantôt tu parlais comme, puis je l'ai dit souvent, hey, j'aimerais ça avoir une diète, j'aimerais ça avoir un plan alimentaire, un training. Bon, ben écoute, tu veux un bon training, là, va sur bodybuilding.com, là, puis il y en a des super bons. T'sais, ça va être encore plus élaboré que moi je peux te faire parce que là, souvent, ils vont mettre la gomme, là, puis là, ça va être comme. Mais tu sais, c'est ce que je veux dire avec ça, c'est ce qui va vraiment faire la différence quand tu as un coach, c'est que tu es redevable, tu as un principe de responsabilisation, puis tu es redevable envers une personne. Parce que moi, ce qu'on dit, c'est qu'OK, on a un check-in dans deux semaines. Là, on s'entend qu'on veut modifier ton déjeuner, par exemple. Ben, dans deux semaines, si tu ne l'as pas fait, attends-toi pas à ce qu'on jump sur une autre habitude. On va dire, ben OK, là, le déjeuner, tu ne l'as pas fait. Les deux prochaines semaines, guess what? On retravaille encore le déjeuner. On build up des habitudes, puis on change une chose à la fois.
C'est ça.
Même affaire avec l'entraînement, même affaire avec bien des affaires dans la vie aussi.
Oui, puis si ton client n'est pas arrivé à changer son déjeuner, justement, il faut que tu comprennes pourquoi.
Ben oui,
qu'est-ce
c'est
qu'il
ça,
a fait qui n'est pas capable d'appliquer cette notion-là? Toi, c'est en tant que coach, quel outil tu as pour l'aider à simplifier ça,
t'sais. C'est ça. Puis souvent, c'est comme, c'est pas de sa faute au client, c'est juste, ben, écoute, les deux dernières semaines, bon, j'ai été débordé au travail, après ça, les kids au travail de tout ça. All right, bon, ben là, on peut-tu optimiser ta gestion de temps, ta préparation de repas pour faire en sorte que tu déjeunes ou, tu sais, juste...
Je pense que, non, en effet, c'est pas toujours de la faute du client, il faut pas tomber dans la victimisation non plus.
Non, exact. Exact.
Parce qu'on s'entend qu'on vit d'une société de même aussi, on se victimise pour à peu près tout, là. Il faut quand même prendre conscience que les gens ont à se responsabiliser eux-mêmes. Je veux dire, si je vais prendre par exemple, même les coachs ont souvent été responsables de ça dans le sens où, je vais donner un exemple, on accuse l'industrie alimentaire de faire en sorte qu'ils ont causé l'obésité. Okay? Mais tu sais, aux dernières nouvelles, je connais pas une histoire où un représentant de Vachon est allé sacrer un Joe Louis dans la gueule de quelqu'un chez eux.
Ouais, c'est ça. Personne mange par accident non plus.
Non, ça tombe pas tout seul de même. C'est toi qui fais le choix consciemment de manger ça, tu sais. Fait que maintenant, est-ce que le trend de la société en général, est-ce que la publicité, est-ce que le message véhiculé est bon? Est-ce que ça a un impact sur ta neurologie? Est-ce que ça a un impact sur ton sentiment de satiété? Oui, en effet, tout ça va venir jouer dans la balance, faire en sorte que tu embarques dans une mauvaise, dans une roue qui mène pas à bonne place. Sauf qu'il faut quand même, c'est ça, tu sais, toujours garder qu'il y a toujours une partie de la responsabilité qui revient au client. Comme tu dis, en effet, tu sais, oui, toi, tu as à trouver des outils, tu as à travailler avec le client pour l'amener puis comprendre sa réalité. Ça, j'en suis conscient. Puis comme je t'ai dit tantôt, c'est ce que je pense qu'un coach devrait faire. Mais c'est important d'amener le client à se responsabiliser lui-même et à lui faire comprendre que au final, la situation dans laquelle il est le seul responsable.
Puis, ben oui,
moi, ce que je me rends compte beaucoup, c'est que les gens dans la vie ne se priorisent pas. Mm-hmm. On a développé un certain jugement, une certaine façon de fonctionner pour que les. Puis tout le monde a l'impression de se sentir coupable quand ils passent trop de temps à s'occuper d'eux autres mêmes.
Ouais.
Les valeurs familiales sont différentes pour tout le monde, puis tout ça. Puis, mm-hmm. Mais je pense qu'en bout de ligne, le fait de travailler sur soi, d'améliorer sa propre santé, puis de devenir la meilleure version de soi-même, c'est mm-hmm. le plus beau cadeau que tu peux faire à ton entourage.
Ben oui, exact. Parce que c'est drôle, j'ai sorti une vidéo là-dessus cette semaine que. Tu sais, je posais la question, t'as-tu déjà eu le feeling de te sentir égoïste pour aller prendre une heure et demie même pour aller t'entraîner pendant ce que ton chum ou ta blonde s'occupait de la routine avec les kids? Ben, tu sais, au final, c'est juste que t'acceptes de prendre du temps pour toi pour mieux redonner aux autres, pour être
absolument
plus patient, patiente envers ton chum, ta blonde, avec tes enfants, puis de prendre un moment pour toi pour vivre plus longtemps aussi, puis en tout cas, mettre les chances de ton côté pour.
Ben ouais.
Montrer le bon exemple aussi, tu sais. Puis une autre affaire, là, que tu me fais penser à quelque chose, là, c'est que moi, je pense que la différence entre être bon puis gentil. Puis moi, une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à coacher, puis c'est un peu une erreur que tu build up une clientèle puis tu veux être gentil avec le monde. C'est comme la personne vient faire son check-in, ça fait 2 semaines qu'elle t'a fait un plan de match avec elle, elle respecte pas parce qu'il n'y a pas eu de responsabilisation de sa part. Puis là, t'es comme, ben, c'est pas grave, Carl, on reprend ça dans 2 semaines, puis tu le flattes un peu dans le sens du poil, parce que là, t'es comme, hey, là, faut que je me build up une clientèle, faut pas que je froisse les gens, t'sais, faut pas que j'ai choc.
Ouais.
Tandis que là, nous autres, une culture qu'on instaure depuis 1 an et demi à l'interne, c'est comme, on veut être bon avec les gens, parce que les gens arrivent avec la journée 1, ils ont des objectifs, perte de poids, manque de confiance en soi, ça va pas mal dans leur couple, ils ont vraiment des problèmes à régler. Fait que là, quand tu viens faire ton check-in, puis t'as pas fait ce qu'il fallait que tu fasses, ben, quelqu'un qui est bon, qui tient vraiment à cœur le succès du client, c'est comme, là, Carl, Steve, wake up, là. Ça fait comme 3-4 rencontres que tu me dis que tu vas le faire et tu le fais pas. Là, 3 mois, tu es arrivé avec des objectifs, tu te sentais comme ça, comme ça, comme ça. Là, on n'est pas en tout dans la même ligne. Fait que c'est d'accepter de brasser un peu les clients, puis c'est pas dans le respect, bien sûr, mais c'est pas pour être méchant. C'est comme, des fois, ils ont peut-être besoin de se faire un peu brasser. Puis quand tu es gentil, puis tu fais comme, bon, on s'en va dans 2 semaines, puis on laisse ça aller. Tu fais pas ta job de coach, hein.
Ben, c'est des notions de coaching de base, en fait, ce que tu racontes là. Parce que ça, c'est le gros problème aussi, c'est que, tu sais, parce que tu as fait une compétition dans la vie ou parce que l'entraînement t'intéresse ne veut pas dire que tu es nécessairement un bon coach. Mm-hmm. Parce que tu es un expert de l'entraînement puis tu connais ça énormément ne veut pas dire que tu es un bon coach. Les notions de coaching, là, c'est pas juste dans l'entraînement, là. Je veux dire, tu as des coachs en entreprise qui vont aider des entreprises à faire des meilleurs vendeurs, des meilleurs reps, whatever, ben c'est la même chose. C'est des notions de prendre quelqu'un, là où il est, puis de dire, écoute, c'est ça que tu veux, parfait. Moi, je vais t'amener là, mais voici le plan. Maintenant, comment on va s'y rendre? Ben là, on va y aller ensemble, puis on va trouver la meilleure manière de le faire. Sauf qu'en effet, si ce plan-là n'est pas respecté, ben de un, c'est de comprendre pourquoi, puis de deux, ben c'est de le dire au client. Regarde, on n'est pas dans la bonne ligne pantoute présentement. T'avances pas, tu me payes. Puis moi, j'ai pas l'impression de faire ma job en ce moment parce qu'on n'a pas les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu sais? Là, faut avoir une vraie conversation. Puis si tu fais juste flatter dans le sens du poil, comme tu dis, oublie ça, t'arrives à rien. Puis t'as bien beau dire, je veux une clientèle, mais ça, c'est une des affaires que je vois quand je fais du mentorat avec les coachs. C'est que la meilleure publicité, c'est pas d'être gentil, c'est d'avoir des résultats.
Ben oui, les transfos.
Les transfos, c'est ça. Fait que tu sais, si t'en veux, il faut que tu donnes des résultats à tes clients.
Oui, c'est ça.
Fait que apprends à les comprendre, ayez une vraie discussion, puis parlez-vous pour vrai. Puis moi, je le dis de prime abord avec mes clients. Regarde, si on fait affaire ensemble, il faut être capable de se parler pour vrai. Moi, s'il y a de quoi dans le plan ou dans quelque chose que je fais qui ne correspond pas à ce que tu veux, il faut que tu me le dises. Tu sais, attends pas un mois pour me dire, ben je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas capable, je ne me sens pas prêt pour ça ou whatever. Ben, dis-moi-les right front. On va corriger puis on va s'assurer qu'on part avec la bonne affaire. Puis, de l'inverse, moi aussi, s'il y a de quoi que je vois que tu fais, que finalement, ça ne correspond pas partout, soit à ce que tu me dis, ou soit à ce qu'on a pris comme entente, ben, je vais te le dire aussi. Fait que c'est important.
Oui, puis tantôt, tu parlais que les clients connaissent déjà la réponse avant de le savoir. Encore une fois, les check-ins qu'on fait remplir à toutes les rencontres bimensuelles avec les clients, ben, il y a des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux dans les 2 dernières semaines pour être on track avec tes objectifs parce que t'as pas atteint ce que tu voulais atteindre.
Ouais, c'est important.
Mais souvent, ils ont déjà, ils remplissent le type form, là, le questionnaire, puis ils ont déjà la réponse.
Ils l'ont déjà, ouais.
Fait que là, on build up, on rencontre la personne le lendemain, elle dit « OK, ben t'avais déjà ta réponse, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire ça, pour que ça soit mieux? »
Tu sais, souvent, quand pour poursuivre sur ça, que les gens savent déjà, la plupart des gens, en général, que je vois, ils mangent pas si mal que ça. Dans le sens que, tu sais, c'est rare que j'ai quelqu'un qui débarque dans mon bureau et qui mange vraiment que de la scrap dans la vie. Mm-hmm. La plupart des gens ont une notion de c'est quoi bien manger. Jusqu'à un certain point. Mais en général, c'est pas si pire comme alimentation. Ce que je vois, c'est pas un problème de choix alimentaire, mais souvent un problème de pattern alimentaire. C'est vraiment un problème d'habitude alimentaire. T'sais, ils vont manger pas pire dans la semaine, mais ils vont arriver à la fin de semaine puis ils vont se défoncer à la face. Ils vont manger bien, mais il y a constamment soit de l'alcool au travers de la semaine. Il y a toujours des petites collations à gauche, à droite. T'sais. C'est des problèmes de pattern alimentaire, des habitudes qui reviennent tout le temps. Puis c'est ça qu'il faut contrôler, puis c'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est comme, c'est ancré dans le quotidien. Fait que là, il faut que tu réussisses à enlever ça. Puis même chez les gens, le pire affaire que j'ai souvent, la première question, quelqu'un rentre, bon, ben, j'ai tel objectif, je veux coter, je veux qu'on voie plus mes muscles, je veux avoir un six-pack, whatever, tu sais, l'objectif. Puis là, on est en train de jaser de comment s'y rendre, et la première question que j'ai, c'est quand que j'ai le droit de cheater?
Ouais, c'est ça. Je savais ce que c'était le mien. Ouais, cool.
Attends un peu, là, tu sais, on va commencer par... Ça fait des mois que tu cheats, là, fait qu'on peut s'en passer par un petit bout, tu sais. Fait que moi, j'aime pas vraiment la notion de cheat. J'aime mieux comme la notion de comme, on va appeler ça dérapage contrôlé, mettons. Tu sais, où tu peux peut-être t'accorder des aliments qui sont peut-être plus le fun, mais sans nécessairement tomber dans la déchéance, tu sais. Parce que c'est là que souvent, d'un, tu viens scraper les gains de la semaine, puis de deux, c'est souvent, tu vois, à l'extrême, tu sais. C'est difficile si à chaque fin de semaine, tu manges des aliments qui te causent des problèmes gastriques, des problèmes de digestion, des problèmes d'inflammation, puis tu reviens constamment au point A à chaque lundi, tu sais. Fait que tu as 5 jours dans ta semaine pour réussir à faire des gains. On va dire 4 jours et demi, parce que souvent le vendredi soir contre la fin de semaine.
Ouais.
Puis tu es à 2 jours et demi où tu viens scraper tout ça, tu sais. Fait que, ben, en bout de ligne, t'as pas grand pourcentage de la semaine qui est...
C'est ça, puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai sorti un podcast comme là, peut-être une semaine ou deux là-dessus sur, c'est comme le principe de t'es un soldat la semaine puis t'es un party animal la fin de semaine, là. C'est comme justement du lundi au vendredi midi, t'es tellement sur la coche, comme tu track tes calories, tu track tes protéines, tu t'entraînes, tu bois de l'eau, c'est comme un moine, puis après ça, rendu le vendredi midi, là, c'est un après-midi avec la job, tu commences à prendre un peu d'alcool, le soir, tu s'en vas au resto, tu planifies rien la fin de semaine, tu bouges pas, tu t'entraînes pas, tu te couches tard, tu te lèves tard, tu manges de la scrap, tu reviens le lundi, OK, là, il faut que je me recette pour ma semaine. Fait que tu sais, au final, t'es tout le temps en train de faire du surplace. Hein.
Ouais, ben c'est ça,
quasiment 50% de ta semaine, comme tu dis. Hein.
Ben, c'est parce que, tu sais, généralement, tu veux aller chercher... Il y a un certain déficit calorique qu'il faut que tu ailles chercher pour perdre du poids. En général, la moyenne veut que ce soit autour de 3500 calories de déficit dans une semaine.
Ouais.
Si tu calcules la moyenne, il faut que tu causes au moins un déficit d'à peu près 500 calories par jour pour arriver à ça à la fin de ta semaine, puis aller brûler un pseudo une livre de gras.
Mm-hmm.
Mais tu sais, si finalement tu as juste du lundi au jeudi pour faire ça, tu as 4 jours, tu viens d'augmenter ton déficit de pas mal, tu sais.
Ah oui.
Fait que ça s'en vient tough. Puis là, dans la fin de semaine, ben là, tu t'en viens finalement tout aller rattraper le déficit que tu as causé. Fait que souvent, tu vas faire du surplace en bout de ligne.
Ah oui. Ce que je te coupe, là, mais sans compter toute l'inflammation que tu vas créer dans les jours après parce que tu as trop mangé de bouffe dans un petit espace-temps. T'es comme inflammé.
Ben, t'as la notion de c'est quoi tu as choisi comme nourriture. Ça, c'est aussi important aussi, tu sais.
Aussi.
Si t'es allé te clencher une extra large chez Pizza Salvatore, ben ça se peut que tu files pas bien. Comme je te dis, tout le monde n'est pas affecté au même niveau par les aliments transformés. T'as des gens qui sont affectés plus que d'autres. C'est un peu le même principe comme la notion de sans gluten ou sans lactose, tu sais. Le fait de manger sans gluten ou sans lactose te fera pas perdre plus de poids. Je veux dire, c'est simplement que si t'as un facteur inflammatoire lié à ça, si tu as un niveau d'intolérance quelconque lié à ça, ben en effet, ça peut aider à diminuer l'inflammation, faire en sorte d'améliorer un paquet d'autres facteurs liés à ta perte de poids. T'sais. Sauf que c'est pas ça qui va causer ça. Fait que tout le monde n'est pas affecté au même niveau. Sauf qu'on s'entend en général que si tu te clenches la grosse extra large de chez Pizza Salvatore, il y a probablement des chances que tu ailles péter ton score de calories alloué pour la semaine, là, pour la fin de semaine. T'sais. Fait que, c'est un peu ça. T'sais, je pense que c'est beaucoup dans les habitudes alimentaires, dans les patterns alimentaires qu'il faut corriger en premier. Fait que ça, c'est un des gros points. Puis le fait que, tu sais, en général, en tout cas, moi, personnellement, ce que je vois beaucoup quand je reçois des clients, c'est pas des gens qui mangent trop, généralement. J'ai même l'inverse. Je vois beaucoup de gens, particulièrement chez les femmes, malheureusement, c'est que les gens ne mangent pas assez. T'sais. Régulièrement, je vais voir des clientes qui vont arriver dans le bureau, puis je fais la somme de ce qu'ils mangent. Puis ils mangent 1200, 1300 calories par jour. T'sais. C'est des gens qui auraient besoin d'en manger 1800, 1900, 2000 au moins. Donc, soit ils ne mangent pas beaucoup, puis ils ne bougent pas. Donc, en partant, c'est une très mauvaise roue. Soit ils ne mangent pas beaucoup, mais ils bougent beaucoup. Fait que là, tu as le facteur d'adaptation métabolique qui commence à. Fait que ton client arrive dans le bureau pour perdre du poids, mais mange déjà pas. Donc, où tu veux t'en aller avec ça? Je veux dire, t'es déjà tellement sous-calorique, et je peux pas descendre plus bas que ça. J'ai pas de jeu pour te faire perdre du poids. Et la deuxième chose, c'est que la personne est déjà dans ce qu'on appelle des adaptations métaboliques. C'est-à-dire que son organisme s'est adapté à une sous-alimentation. Et un niveau d'activité soit nul, mais souvent augmenté, ceux qui s'entraînaient déjà. Donc, un niveau d'activité élevé et une sous-alimentation. Donc, tu n'es vraiment pas une bonne place pour perdre du poids. Mais souvent, le niveau de cortisol est élevé et fait en sorte que, ben, finalement, il y a d'autres facteurs liés à la santé qui sont affectés par ça. Fait qu'il faut commencer par travailler là-dessus. Fait que, ben souvent, moi, quand je rencontre des clients au départ, la première affaire, c'est « Es-tu prêt? Es-tu prêt? » physiquement, métaboliquement, à perdre du poids. Puis ça, malheureusement, 70% du temps, les clients que je vois sont pas prêts à faire ça. Pas parce qu'ils veulent pas, parce que leur organisme n'est pas prêt. Même si on veut perdre du poids, ma seule solution, c'est d'aller en bas de ce qu'elle mange présentement. Ça marche pas. Je peux pas faire ça parce que ce sera pas soutenable, c'est pas quelque chose qu'on peut faire au long terme. Fait que l'idée, ben, c'est de... faut réintroduire de la nourriture dans la structure de la personne. Souvent, c'est d'augmenter les calories, justement, avec des bons aliments. Puis juste de faire ça, bien évidemment, on commence à venir comme corriger un peu ces adaptations métaboliques-là. On fait descendre le niveau de stress, puis il y a de la perte de poids qui se crée dans les premières semaines, juste parce que l'inflammation diminue, la digestion est améliorée, et là, bien, ils commencent à avoir une meilleure activité métabolique. La preuve, souvent, j'ai des clientes qui recommencent à avoir leurs règles. Il n'y en avait plus depuis un certain temps. Après ça, des clients qui ne suaient pas dans le gym pantoute, et là, ils commencent à suer dans le gym. Donc, c'est un autre signe. Tu sais, fait que là, ils commencent à avoir des facteurs. Puis le but, c'est de rebâtir finalement cette activité métabolique-là pour être capable, après un certain temps, de là faire de la restriction calorique, puis de perdre du poids à un plus gros rythme. Mais tu sais, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là. Tu ne peux pas arriver, puis tu ne manges pas déjà, puis vouloir perdre du poids. Il faut commencer par manger. Fait que, tu sais, c'est la première notion.
Puis l'augmentation calorique, là, j'imagine que on prend l'exemple de quelqu'un qui est à 1200 puis devrait en manger 1008, 1009. J'imagine que tu montes les calories pas trop drastiquement non plus.
En fait, la première chose, bien souvent, c'est impossible, même si on le voudrait. Ouais. C'est assez rare que quelqu'un y arrive. Tu sais, il mange 1200, 1300 calories, mais souvent, c'est des aliments qui sont plus ou moins bons. Tu sais, on va avoir beaucoup d'aliments transformés là-dedans. Fait que déjà, en partant, la notion de digestion n'est pas super efficace. Okay? Fait que, en partant, la première chose, ça va être vraiment d'introduire de super bons aliments, puis de monter ses calories graduellement, puis tu essaies d'utiliser des nutriments qui n'ont pas trop de chance finalement de virer en gras. Puis un de ces aliments-là, c'est les protéines. Okay? Les protéines, en soi, l'effet thermique des protéines, c'est 20 à 30 %. Donc, c'est-à-dire que pour 100 calories consommées de protéines, il t'en reste 70 environ, parce que t'en brûles 20 à 30 juste par l'effet thermique eux-mêmes des protéines. Donc, juste pour les assimiler, puis que ton corps crée la procédure pour aller livrer les acides aminés, tu vas brûler 20 à 30 % de ça. Fait qu'on s'entend qu'en partant, consommer beaucoup de protéines, puis je le sais, le monde, ils me le disent, ils sont donc bien gossants, le monde, les coachs avec les protéines. Ben oui, mais c'est là pour une raison, tu sais. Fait que l'idée, c'est de commencer avec ça, puis d'augmenter le maximum de protéines qu'on est capable de manger. Fait que d'un, ça crée une satiété. Puis de deux, ben, ça fait en sorte que justement, on est capable comme de. On voit tout de suite une différence au niveau de comment les gens se sentent. Les gens vont commencer à s'entraîner aussi musculairement, donc en augmentant les acides aminés, on augmente les chances aussi de créer du muscle. Parce que souvent, c'est des gens qui s'entraînent déjà, mais qui n'ont jamais eu de changement physique par l'entraînement. C'est des gens qui sous-consommaient les protéines aussi. Donc, juste de régler ce facteur-là en premier, on vient d'améliorer leur situation de beaucoup. On vient d'augmenter un peu les calories, mais c'est rare qu'on réussisse à se rendre à 1800-1900 tout de suite. Généralement, on va être capable d'aller chercher un 250-500 calories, un 250-300 calories de plus que ce qu'ils mangeaient. Là, on va avoir le premier défi qui est là. Et graduellement, ben là, l'idée, c'est de contrôler l'apport en glucides, l'apport en lipides, bref, tout ce qui est les substrats énergétiques. Puis ça, ben, tu y vas au désir du client, tu sais. Il y a des gens qui aiment plus manger des glucides, puis il y en a d'autres qui aiment plus manger des lipides. Fait que je leur laisse décider la part qu'ils veulent à ce niveau-là. Puis ceux qui sont plus à l'aise de manger plus de glucides, ben OK, cool, on va faire une planification qui est plus à base de glucides. On va réduire un peu dans les lipides. Ceux qui préfèrent manger plus avec des huiles, des noix, des avocats, ces choses-là, bon, ben écoute, on va mettre plus d'apport lipidique dans ta planif, puis on va réduire à ce moment-là les portions de glucides. Fait que, rendu là, l'idée, c'est de faire de quoi adaptable au client que tu sais qu'il va être content, qu'il va être à l'aise de manger au quotidien jusqu'à ce qu'on pogne le seuil calorique qu'on veut. Exactement. Généralement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier le poids et le physique. Donc, je me fie... Et j'ajoute aussi, chez certains clients, les mensurations cou, taille, hanche, pour voir comment le physique évolue. Je prends le poids tous les jours et le poids, à ce moment-là, je fais une moyenne de la semaine. Parce que là, les gens, c'est ça le problème, c'est que souvent, quand ils arrivent, ils vont faire un check-in le lundi matin. Ils refont un check-in dans 2 semaines ou dans 4 semaines, le lundi matin. Mais il n'y a rien qui dit que cette pesée-là est si valide que ça, dans le sens que tes fluctuations de poids, ça joue d'une journée à l'autre. Fait que si tu tombes sur une mauvaise journée, tu vas avoir l'impression que c'est rien passé. Fait que la meilleure méthode, c'est de prendre les 6 jours de la semaine, tu prends le poids tous les jours, puis tu fais la moyenne de ça. Ouais, la semaine d'après, tu reprends ta... Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu calcules toutes les... Tu additionnes tous tes poids des séjours. Tu les divises par 7, ça va donner une moyenne. Tu fais la même affaire la semaine d'après. Tu fais la même affaire l'autre semaine. Puis tu prends la moyenne de chaque. Puis si la moyenne tend à descendre, c'est parce que tu t'en vas dans le bon chemin. Tu commences à prendre chaque fois la mesure quotidienne, ben, si tu tombes sur la mauvaise journée, tu vas te dire, ben, coudonc, ça marche pas, tu sais. Parce que, tu sais, je veux dire, ça prend juste les femmes... Quand ils vont arriver à leur période de règles, les fluctuations de poids vont augmenter, ça va jouer, ça débalance vraiment tes calculs. Fait que prends la moyenne quotidienne, la moyenne hebdomadaire, puis fie-toi là-dessus pour voir si tu t'en vas. L'idée, c'est de voir si le trend général s'en va à bonne place.
Ouais, donc, c'est un bon truc, ça.
C'est un peu la même affaire pour l'entraînement. T'sais. Ce que tu veux voir, c'est pas nécessairement toutes les PR que tu fais, parce que, à part être un athlète qui est dans un encadrement bien, bien strict, monsieur, madame, tout le monde, qui s'entraîne puis qui calcule ses performances dans le gym, ben ça se peut que d'une semaine à l'autre, ça ne soit pas les mêmes. Ce que tu veux voir, c'est le trend général. Fait que faut que tu vois ça d'une vision macro en arrière puis faire comme en général, ça s'en va vers le haut, c'est bon, tu sais.
Ouais. Tu donnais l'exemple des femmes, puis même les hommes sont atteints par ça, parce que, tu sais, exemple, le sommeil, tu fais juste avoir une nuit, une semaine où ce que tu dors moins bien pour X raison parce que tu es trop stressé, tu vas avoir une élévation, ça balance. Absolument. Même si tu as moins bu d'eau ou. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on peut tracker. Là.
Oui.
Mais j'adore l'idée de la moyenne. Là. C'est clairement qu'on va intégrer ça avec nos membres.
Je te dis, tu vas voir une différence. Bien, puis il y a souvent des gens qui vont te dire, puis moi je le vois beaucoup quand je suis online justement, les gens vont m'arriver, vont dire, ouais, mais Steph, j'ai pas l'impression de perdre du poids. Check là, mon poids. J'ai pogné 161,2. Puis la semaine avant hier, j'étais à 156. T'sais. Ouais, mais check le trend général. Alors, regarde, puis là, moi, j'ai dans mon appli web sur laquelle je coach mon monde, j'ai des graphiques. On voit finalement tout. Puis tu regardes la fluctuation en général. Oui, ça fait des pics de haut et en bas, mais les pics sont toujours en descendant graduellement. T'sais.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est là que tu vois. Puis quand tu l'as en image, les gens font comme ah, j'avais pas vu ça de même. T'sais.
Ah, ouais,
c'est vraiment la meilleure façon de voir. Puis quand tu le fais réaliser au client, ben là, souvent, il est plus confiant en le plan. Fait comme bon, ben ce que je fais, ça marche. T'sais. Ouais. Fait que ça, c'est une
petite. Puis souvent, on le voit, les femmes, là, naturellement, tu sais, moi, en tout cas. Dans mon historique de coaching, c'est un pattern qui revient beaucoup au niveau des femmes. Je prends l'exemple de la femme qui augmente ses calories graduellement, puis là, elle va avoir tendance à se peser. Fait que là, elle voit qu'elle mange un peu plus de volume, puis là, elle regarde la pesée à tous les jours, ça augmente un petit peu.
Ouais.
Fait que là, elle perd un peu confiance dans le processus, se dire « OK, là, mon coach me dit de manger plus, puis là, la balance, ça monte. » Fait que là, crée un peu de cortisol par rapport à ça, vient qu'elle est un peu stressée, moins de confiance envers le plan, tendance à skipper des repas pour revenir dans un vieux pattern. C'est pour ça que c'est comme...
Ouais, c'est touché parce que la balance est démonisée énormément, tu sais. Mais ouais,
ça
moi,
reste
j'ai...
un bon outil de progression.
Ben, c'est un outil. C'est ça, c'est qu'il faut faire comprendre aux clients que ce n'est pas la seule notion de progrès.
T'sais. Non.
Comme la charge ultime sur un squat ou un bench, ce n'est pas la seule notion de progrès. T'sais.
Comme le pourcentage de gras aussi.
Ben, écoute, moi, le pourcentage de gras, pour être honnête avec toi, c'est la notion que je check le moins. Dans le sens que je la prends en compte. Sauf que c'est pareil comme le poids. Ça joue d'une semaine, d'une journée à l'autre. Là, quand tu vas commencer à perdre du poids avec ton client, combien de fois tu vas voir le pourcentage de gras augmenter au début? Parce que tu vas perdre de l'eau, mais tu vas perdre de l'eau intramusculaire aussi. Puis ça, là, si tu fais une bioimpédance, par exemple, ça ne fera pas la différence. Hein. Donc, toi, souvent, ça arrive, le pourcentage de gras augmente parce que la perception par la balance de la masse maigre totale est plus petite parce qu'il y a moins d'eau dans le muscle. Fait que tu as moins d'eau en général dans le corps. Fait que au début, ça augmente. Puis là, après un certain temps, tu vois ça descendre. Mais encore une fois, il faut que tu vois le trend général. Si tu fais des check-ups de pourcentage de gras, que ce soit aux pinces, que ce soit à la balance, ben il faut que tu regardes au long terme, ça dit quoi? Pas chaque mesure, autrement dit.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça aussi, ça va jouer. T'sais. La répartition des fluides dans le corps et la répartition des gras, c'est quelque chose qui va jouer en fonction des fluctuations hormonales, en fonction des fluctuations de stress. Fait que tes pinces, quelqu'un qui prend une pince aussi, tu vas arriver d'une semaine à l'autre, puis c'est pas tout le temps, les sites sont pas toujours pareils. T'sais.
Non,
il faut que tu regardes le trend général puis pas prendre des décisions basées sur des données isolées.
Ouais, c'est ça. Tu sais, le pourcentage de gras, tu prends quelqu'un qui est athlète ou quelqu'un qui est vraiment en shape, là, genre 8-9% de gras, puis que là, comme va pousser un peu plus la machine, OK, le pourcentage de gras devient un peu plus utile.
Oui, en effet.
Pour bien du monde, là, au début d'un processus de transformation physique. Là, photo, tour de taille, poids,
ben,
tour
c'est de cou aussi. Parce que mets-toi à la place du client de toute façon. Tu sais, à part, mettons, quelques personnes qui freak out là-dessus, là, en général, là, tu sais, Jean-Guy, là, quand il vient te voir, là, même si qu'il soit à 12% de gras ou 38% de gras,
sans sac.
Ça change rien. Gisèle, à 100 sacs, là. Elle, ce qu'elle veut, c'est fitter dans sa robe. Fait que c'est quoi que tu veux comme notion d'évaluation? Ben, les mensurations vont peut-être être plus. Puis tu peux aussi sortir des outils qui sont en dehors de ton champ d'expertise, des outils que la cliente elle-même va être capable de se structurer puis de visualiser. Genre, OK, ta robe, tu veux rentrer là-dedans. Cool. Mets ta robe aujourd'hui, puis check comment tu fites, puis donne-toi des points précis. Genre les épaules, la taille, les fesses, whatever, tu sais. Puis évalue de semaine en semaine dans notre suivi, à rentre dans cette robe-là, puis prends des photos, puis regarde ce que ça donne. C'est ça ton outil de progression, tu sais. Fait que tu mets ton outil de progression directement dans le contexte du client. Il n'y a rien de mieux pour convaincre la personne, tu sais. Toi, tu peux garder tes notions de progression à toi, tu sais, comme tu as dit, le poids, les photos, si tu veux, le pourcentage de gras. Ce qui est important, les mensurations, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir un seul outil de progression. C'est de considérer l'ensemble. Puis si l'ensemble s'en va dans la bonne direction, let's go, ça va bien, tu sais.
Ouais, exact. Puis tantôt, tu parlais des protéines, là. J'imagine que la règle du 1 gramme de protéines par livre de poids corporel, c'est de quoi que tu peux te fier. Moi, personnellement, ce que je fais souvent, c'est quand, des fois, j'en parle dans les premières rencontres, puis mettons, on dit, OK, là, tu pèses 200 livres, tu devrais aller chercher 200 grammes de protéines dans ta journée, sauf que là, en ce moment, tu en prends 100 grammes. Donc là, veux-tu builder ça tranquillement, comme là, prochain objectif, c'est d'en manger 125, 150, 175, puis après ça, se rendre vers le 1 gramme. Ben c'est ça. Ça peut aller de 0,8 à 1,3, je pense, là, tout dépendant. Mais utilises-tu encore cette formule-là? Tu trouves-tu que ça fait du sens? Parce que moi, j'aime l'idée qu'après ça, on set les protéines, les légumes aussi, que souvent, il y a des ratios qu'on peut respecter. Puis après ça, toi, j'aime l'idée de dire, ben gars, les fats, les gras, ben les carbs, on module ça en fonction des protéines, puis choisis un peu tes préférences. Ça,
Moi, dans le fond, ce que je fais, ben, c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait, c'est de setter les protéines. Moi, je set les protéines en premier et les fibres. C'est les deux nutriments et ce que je considère les plus importants. Les fibres participent non seulement à la satiété, participent à la diversité au niveau du microbiote aussi. Parce que ça, c'est un autre facteur qu'on ne réalise pas. Mais tu sais, les gens souvent arrivent avec un environnement du microbiote qui est un peu défait, qui est un peu qui est pas équilibré, autrement dit. On sait qu'est-ce qui n'est pas équilibré, on ne sait juste pas qu'est-ce qui est un bon microbiote, mais on sait comment l'améliorer. Puis ça, c'est avec les fibres. Les fibres, autrement dit, c'est des prébiotiques. Donc, c'est ce qui nourrit finalement tes probiotiques. Fait que je vais souvent considérer les protéines et les fibres comme les deux premiers facteurs. On set les protéines, puis souvent, je vais les placer le plus haut possible pour la personne parce que Comme je te dis, c'est trouver le facteur de satiété. Parce qu'on sait, en allant changer, autrement dit, la structure alimentaire, souvent les gens vont développer la faim, tu sais. Ils vont se sentir peu rassasiés par les aliments. Fait que là, ben là, les protéines, c'est les champions pour ça, avec les fibres, tu sais. Fait que côté longévité, les protéines et les fibres aussi sont les champions là-dedans. Je veux dire, les preuves ont été faites. Fait que, ben écoute, on va y aller là-dessus. On va commencer avec ça, puis c'est des notions simples. Fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est aller chercher un maximum de protéines. Donc, si je suis capable d'aller chercher entre 1 gramme, 1,2 gramme, c'est l'idéal. Par livre de poids, évidemment. Encore là, par livre de poids, si j'ai un client qui fait 42 % de gras, ben son poids, c'est pas vraiment ce qu'il a besoin en protéines. Parce qu'il n'y a pas la masse musculaire. Fait que je vais regarder un peu et je vais aller chercher un à peu près, autrement dit.
Mm-hmm.
Sauf que quand on commence, ce n'est pas tant le facteur le plus important. T'sais, dans le sens où le facteur qui est important, c'est qu'il majore dans les protéines, finalement. T'sais. Ce qu'on veut, c'est qu'il mange suffisamment de protéines. Donc, une fois ça, c'est seté, puis qu'on est capable d'avoir des protéines à environ tous les repas, que la consommation totale est suffisante, qu'on a des légumes, les fibres nécessaires, les fibres suffisantes. Ben là, après ça, comme je te dis, une fois que ça c'est seté, ça va se faire généralement peut-être. Il y en a qui réussissent dès la première semaine à rentrer ça, mais il y en a que ça prend plusieurs semaines avant qu'on réussisse. Une fois que ça c'est seté, ben là, on passe à autre chose après ça. Mais c'est la première étape. C'est vraiment les protéines. Puis oui, en effet, le 0.8 à 1.2, 1.3 grammes, c'est large comme notion, mais c'est généralement ce que ça prend. Et c'est là qu'on va avoir le plus gros effet de satiété. Mais encore là, ça va dépendre, tu sais. Je vais prendre quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, ben ça se peut que son physique est prêt pour prendre la masse musculaire, je vais réduire ses protéines jusqu'à un certain point. Parce que l'effet de satiété est tellement élevé que ben, je vais réduire un peu ses protéines pour pouvoir lui donner peut-être un peu plus de substrat énergétique pour ses entraînements, pour accomplir son volume d'entraînement. Peut-être qu'on va aller nourrir un petit peu plus d'un glucide ou quoi que ce soit, tout dépendant de ce qu'il fait comme type d'entraînement. Mais là, on va jouer avec le facteur satiété. Mais pour de la perte de poids, généralement, c'est de maximiser les protéines, on ne se trompe pas. Puis dans la notion où on augmente les calories générales, bien, c'est avec ça qu'on a le moins de chances d'engraisser aussi. Puis je vais augmenter les calories jusqu'à ce qu'on arrive au point où la personne commence à prendre du poids. C'est rare, ça arrive. C'est rare, ça arrive, là, parce que généralement, puis même moi, je suis surpris des fois, je suis comme, hey, on a augmenté les calories, on a augmenté de 800, 900, des fois 1000 calories dans les semaines qui dans l'espace d'une couple de semaines. Puis la personne a quand même perdu du poids. Fait que c'est signe que l'effet métabolique est positif. Rendu là, tu sais, je veux dire, science, pas science, on le voit. Je veux dire, fait que l'effet est bon. Pour ceux, des fois, que ça va arriver qu'ils vont commencer à prendre du poids, ben c'est pas compliqué, tu sais. Dès qu'on va voir une livre, on va savoir qu'on a le métabolisme de base. Parce que ça, c'est une autre affaire. Comment tu évalues le métabolisme de base de quelqu'un qui vient te voir puis qui a pas de structure alimentaire? Fait que même si tu fais ta bioimpédance, il va te dire, son métabolisme de base, selon les statistiques et les datas que tu as rentrées, c'est, je ne sais pas, moins 2100 calories par jour. Mais est-ce que son métabolisme est vraiment là en ce moment? Parce que si la personne mange 1200 calories depuis 3-4 ans par jour, son métabolisme n'est pas là, pas tout. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu vérifies en fonction de ce que la personne mange. Donc souvent, ce que je vais faire, c'est demander quelques jours d'alimentation, calculer qu'est-ce que ça donne comme total métabolique, faire comme, son métabolisme de base présentement est probablement plus dans les autres 1200, 1300. Puis là, notre but, c'est de le faire monter. Fait qu'évidemment, là, on se rend éventuellement, puis ça se fait pas comme ça, là, mais on se rend. Mais c'est toujours de savoir la personne est où en ce moment aussi, parce que même si la machine te dit que c'est ça son métabolisme de base, ça veut pas dire que c'est ça, tu sais.
Ouais, c'est ça. T'sais, c'est toujours important de regarder le facteur d'activité aussi, là,
absolument.
C'est comme...
Mais encore là, tu as raison, le facteur d'activité est important, mais... Il faut quand même faire attention parce qu'on surestime beaucoup ce que l'entraînement apporte en dépenses caloriques.
Oui, 100% d'accord. Un heure de muscu, là, tu ne brûles pas tant de gaz.
Non, c'est ça l'affaire. Puis les gens vont se justifier les apports caloriques plus élevés par l'entraînement.
Non.
Mais tu dépenses pas
tant. L'affaire qui est quand même cool avec ça, c'est que tu sais, il y a des gens qui commencent à s'entraîner, puis passent de 0 à 4-5 fois semaine, puis là, ils vont comme se justifier et dire, ben moi, je vais au gym 4 fois semaine, puis tu fais pec bicep, ben épaule, tricep, là, les gens qui ont des Apple Watch, tout ça, là, commence à tracker tes calories que tu brûles dans une heure, là, c'est pas tant énorme. Peut-être si tu fais un petit gros leg day, genre les triceps, puis tu fais des walking lunge, tu marches là-dedans, puis tu sais, le gros leg day.
Imagine en plus ces montres-là, j'ai sorti des statistiques justement que je donnais à mon séminaire il y a 2 semaines. c'est prouvé que ces montres-là ont une marge d'erreur de 23 à 93%.
Oh shit!
Okay. Imagine, en plus, tu tracks ça, puis tu tracks à la hausse. Puis toi, tu penses que tu as dépensé tout ça, mais pas en tout, finalement. Fait que la marge d'erreur est élevée. Là,
Sauf que, tu sais, en faisant comme tous les effets, tu regardes ben, comme dépense énergétique, une heure d'entraînement. T'sais, c'est sans compter tous les effets côté construire la masse musculaire, c'est métaboliquement actif, t'as plein de bienfaits. T'as plein de bienfaits. Le muscu, là, je pense que t'es.
Absolument.
Bien passé pour. Mais tu sais, ce qui arrive avec ça, c'est que des gens ils vont se justifier, dire ben là, je commence au gym, j'y vais 4 fois par semaine, puis naturellement, de façon inconsciente, ils vont baisser leur need, fait qu'ils vont bouger moins dans la semaine. Fait qu'à la place de prendre les marches, ils vont prendre l'ascenseur parce qu'ils ont fait un leg day la veille. Exact. Après ça, à la place d'aller. Il y avait une routine d'aller marcher chaque soir, ben là, ils se sont entraînés, ils disent ben, j'ai fait mon activité, on marche moins. Fait que souvent, on se rend compte qu'il y a quand même une baisse d'activité physique quand même, ou en tout cas, la réintroduction de l'entraînement, ça reste.
Tu as écrit le bon point, en fait, parce que c'est une autre notion que j'aime bien j'aime bien enseigner, dans le sens que faut comprendre que le NEAT, en général, donc le non-exercise activity thermogenesis, c'est probablement ton meilleur allié dans ta perte de poids. Mm-hmm. Et si tu échanges les sessions d'entraînement pour diminuer ton NEAT, je te garantis que tu es perdant au change. Le NEAT vaut pour à peu près, tout dépendant des personnes, mais on peut aller chercher autour de 15% de ta dépense calorique quotidienne. C'est énorme. Sachant que, mettons, en faisant juste tes tâches, ta job, la cuisine, c'est énorme.
Juste avec ton chien.
Écoute, juste le fidgeting. Bouger des mains dépense des calories. T'sais. Fait que juste ces notions-là de base sont hyper payantes. Fait que, si on constate que ton métabolisme de base, juste le fait de respirer et que ton organisme, la circulation sanguine, battement de cœur, tout le kit, c'est 70 % des calories dépensées. Ton NEAT en vaut pour environ 15 % Puis l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire ce que tu manges, peut aller chercher jusqu'à 10 % de ta dépense calorique. Donc, si tu manges des protéines, évidemment, tu vas chercher plus de TEF, de Thermic Effect of Food. Les glucides vont avoir généralement environ 5 à 10 %, puis les lipides vont avoir 0 à 3 à peu près. Fait qu'évidemment, les protéines sont championnes là-dedans. Et la dernière notion, la plus petite notion de dépenses caloriques quotidiennes, c'est ton activité physique, donc ton entraînement. Fait que le message à comprendre, c'est pas que s'entraîner, c'est une mauvaise chose. C'est simplement que s'entraîner pour la perte de poids, ce n'est pas une notion viable, dans le sens que tu n'arriveras jamais à out-trainer ton alimentation. T'sais.
Non, c'est ça.
Surtout si en plus, tu n'es pas sur la grosse coche côté alimentation. Une notion, puis je poursuis dans le fond sur le point que tu disais, parce que si tu disais, tu sais, si dans le fond, tu t'entraînes, puis que tu bouges moins en dehors d'entraînement, tu sais, finalement, tu n'es pas gagnant au change. Puis moi, souvent, c'est une notion, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, ouais, tu ne mets pas beaucoup de cardio dans ton entraînement. Tu as raison. Sais-tu pourquoi? Parce que le cardio, c'est une des notions d'entraînement les moins viables. Tu sais, si, exemple, tu t'entraînes 3 ou 4 fois par semaine en muscu, puis que je te rajoute en plus un 15 à 30 minutes de cardio par séance d'entraînement, on s'entend que tu es rendu à 1h30, 1h45 dans le gym, plus le fait que tu rentres, puis que tu sors, tu changes, il faut que tu te rendes au gym, puis tu retournes chez vous, tu en as pour 2 heures, 2h15 en général. C'est pas nécessairement quelque chose, c'est pas un investissement rentable en termes de temps pour tout le monde. Moi, je vais préférer te faire un entraînement qui va durer 45 minutes, muscu, intense, mais on va utiliser à ce moment-là le NEAT comme notion de progression en dehors du gym. Fait que ce soit, exemple, les gens vont avoir des montres qui comptent les pas. Bon, ben, je vais utiliser les pas comme notion de progression. Si, exemple, ta moyenne de pas quotidienne est d'environ 6-7 000 par jour, on est-tu capable de monter ça à 10 000? Après un certain temps, on est-tu capable de monter ça à 11 000? J'ai des clients, à un moment donné, qui sont rendus que sans s'en rendre compte, au quotidien, ils ont passé de 5 000 à 12 000 pas. Mais c'est du NEAT à fond, ça. Excuse-moi l'expression, mais fuck le cardio. Parce que ta demi-heure de cardio, là, OK, je cool, je comprends, tu as fait des pas. Sauf que tu étais dans le gym, OK? Donc, en partant, tu as la notion que tu as investi du temps dans le gym. Tu ne faisais pas rien d'utile dans ta vie à ce moment-là. Puis ça fait en sorte que c'est quelque chose qui, au long terme, est difficile à maintenir pour la plupart du monde. Okay? C'est pas mal plus difficile de dire à quelqu'un, bon, ben cool, dans ta progression de 12 semaines, tu vas commencer avec 15 minutes de cardio par jour, mais à la fin de la progression, on va être rendu à 60 minutes de cardio par jour. T'es un peu, man, je sais pas, une heure de cardio par jour, j'ai pas le temps de faire ça. Mais si on l'intègre dans une notion de mouvement en général au quotidien, il y a moyen de créer des stratégies pour faire que tu bouges plus.
Ouais, c'est ça.
Puis point supplémentaire, cette notion-là de mouvement quotidien peut être conservée parce que tu as développé l'habitude au quotidien de bouger plus au lieu de développer l'habitude d'aller au gym plus souvent, tu comprends?
Exact. C'est un peu le concept pourquoi que ben, quand les gens rentrent au gym disant vous avez pas de tapis roulant, vous avez pas de cardio, ouais. Non, on n'a pas.
Non.
Mais je suis 100% d'accord. Tu sais, des fois, il y a le point que des gens peuvent apporter, dire ah ben là, si tu mets pas de cardio, ben ils le feront pas d'emblée quand ils vont être à la maison, tout ça. Mais moi, je pense que c'est plus de montrer l'importance de dire écoute, là, tu passes pas de temps avec tes kids parce que le soir, t'arrives, t'es brûlé, tu fais routine avec les enfants, puis tu te couches après, puis t'es vois pas.
Ben, au pire,
c'est important.
Va marcher dehors. Ça, si la notion de bouger en général est trop comme. C'est trop dans zone grise pour ton client, ben, dis ok, cool. Ben, ton cardio de bord, tu vas aller marcher avec tes kids, puis ta femme, à soir, ça va prendre une marche, puis essaie de compter X quantité de pas. Pour ta marche. Mais tu sais, au moins, il fait quelque chose de différent qui n'est pas dans la notion de gym, d'entraînement, puis tout le kit qui fait qu'on le sait, c'est pas quelque chose de soutenable. À un moment donné, ben, ça se peut que sa famille fasse comme, hey, là, les 60 minutes de cardio au gym, là, pas super, tu sais. Puis encore là, on parle de des gens qui ont des objectifs de fitness général au quotidien. Je comprends que pour un bodybuilder, c'est une autre histoire. Okay?
C'est ça, exact.
Mais c'est peut-être pas le sujet. C'est ça.
Tu sais, il y a plein de façons là, d'augmenter les pas. Moi, ça m'a tout le temps fait halluciner. Les gens qui vont faire l'épicerie, là, le but, c'est de se parquer. En tout cas, nous autres, à Alma, en région, c'est peut-être une façon différente que les gens des grandes villes, à Québec et tout. Mais il faut que ça soit, là, on se stationne là, le parking le plus près de la porte de l'épicerie. Moi, ça me fait halluciner. Là, comme, capable d'aller gagner des steps faciles. Va dans le fond. Okay? Ouais, tu vas bien moins fois que le chien, bien moins de chances d'avoir un accident. Puis tu vas marcher en plus.
Absolument. Mais ça, c'est une notion générale. Là, l'humain, en général, cherche la facilité dans tout.
C'est
une des notions aussi qui est dans les facteurs qui contribuent à l'obésité. Dans le sens que, si tu regardes, là, mettons, au niveau des faits, des recherches qui sont faites, la consommation de sucre, en général, a diminué depuis les 20 dernières années. Les gens mangent moins de sucre qu'ils en mangeaient. Je ne sais pas si tu as sûrement déjà vu ça passer. Mais donné, on voyait ça des publicités, des vieux guides alimentaires des années 50, des années 60. Ouais. Avez-vous pris votre cuillère de sucre aujourd'hui? C'est comme... Fait que les gens mangent moins de sucre en général. Fait que c'est pas ça qui cause tant l'obésité. On remarque une augmentation de la consommation des huiles et des graisses saturées. Oui. Mais c'est généralement la dépense énergétique générale qui a diminué beaucoup aussi. Ah. Justement, on a facilité notre vie dans plein de domaines. Je veux dire, on sort du COVID, le pourcentage de gens qui ne vont plus au travail parce que le télétravail est rendu presque partout, on bouge moins, on parle moins au monde, on se déplace moins, puis on cherche des stationnements à côté de la porte d'épicerie.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Puis, tu sais, je checkais les stats là, de temps passé devant les écrans au Canada.
Oui.
Puis le nombre de temps que les gens sont sédentaires, là, hey, c'est fou. C'est comme une énorme proportion des Canadiens et Canadiennes qui sont sédentaires aujourd'hui en 2023. Ouais. Puis, tu sais, on parle souvent de surentraînement, mais on parle pas de sur-sédentarité.
Ouais, exact.
Dans le sens que la surentraînement, je suis 100% d'accord que c'est un phénomène qui existe pour les athlètes, pour les gens qui poussent la machine à côté au gym à l'année longue, là, puis ils sont vraiment en ligne. Il n'a-tu tant que ça? Fait que le surentraînement, c'est un phénomène qui existe, je suis 100% d'accord. Sauf que le phénomène qui cause plus de problèmes dans la société, c'est la sur-sédentarité. C'est qu'on est trop sédentaire, au final.
Oui, exact.
C'est comme télétravail, toutes ces affaires-là font en sorte que...
Tu as mis le doigt dessus, c'est vraiment ça, en gros. C'est, parce que, surentraînement, là, à part, comme tu dis, pour des athlètes, pour des monsieur, madame, tout le monde, j'ai jamais eu à faire de période de deload. Je veux dire, on fait pas ça.
Se fait naturellement, le deload. Ils partent en vacances dans le sud.
Tu vas en avoir 3-4 par année, des deloads. Tu vas en avoir 3-4 par année.
Ah, c'est ça. Les deloads, on les planifie jamais. Comme... Parce que là, tu dis, ah, ben là, je suis moins venu au gym, j'aurai moins de temps. Bon, ton deload est fait, on repart la machine.
Voilà. C'est ça. Fait que, c'est ça. Ah non, t'as totalement raison, je suis d'accord avec ça.
Fait que, écoute, merci Steph, là, je veux pas trop étirer le podcast, là, mais comme je pense que les gens vont bien apprécier ça, on aurait pu faire 2-3 parties à cet épisode-là.
Ah, absolument, ça aurait été facile.
juste pour terminer, là, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux pour prendre contact avec toi?
Oui, évidemment sur Instagram principalement, Facebook aussi, mais cherchez Hungry for Victory. C'est là que je suis trouvable. Je dirais qu'une grosse partie de ma clientèle va me rejoindre par là. Sinon, hungryforvictory @gmail.com. On peut me rejoindre facilement par là aussi. Donc, c'est ça. Là, présentement, mon site Internet n'est pas encore online, mais ça s'en vient. Pour 2024, je vais avoir, j'allais dire pignon sur rue, mais je vais dire pignon sur le web. Voilà. Fait que non, il n'y a pas de problème. Ils peuvent me rejoindre là-dessus, que ce soit pour des questions, pour du service ou quoi que ce soit. À ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Puis à ce que j'ai pu comprendre, tu vois, bon, tu aides des gens à perdre du poids aussi puis à transformer leur physique, là, mais. Est-ce que tu fais du mentorat pour les coachs aussi?
Oui, j'ai vraiment
une partie. One-on-one, genre?
Oui, exactement. Je fais du mentorat pour les coachs aussi. Donc, j'ai vraiment la notion de, oui, je coach des gens vraiment pour atteindre leurs objectifs. J'ai les séminaires que je donne, les conférences, mais j'ai aussi une notion de mon service qui est du mentorat pour les entraîneurs. Donc, à ce moment-là, on établit les besoins de base, là où il faut comme développer les connaissances le plus possible en fonction de la clientèle de la personne. J'aide les coachs un peu aussi à s'établir, comme à comprendre la business aussi, comment aller chercher des clients, comment trouver sa niche de clients, puis développer un peu, se trouver une spécialité parce que c'est plus difficile quand tu t'annonces comme généraliste. Des fois, c'est plus difficile d'aller chercher comme des clients parce que des généralistes, on en voit partout. Fait que des fois, c'est juste de dire, écoute, c'est quoi ta force, c'est quoi que t'aimes faire, puis on va te développer là-dedans, tu sais. Fait que les gens deviennent des experts dans quelque chose, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que oui, le mentorat est quelque chose que j'aime faire. Puis c'est cool de voir aussi des coachs. Tu sais, des fois, tu as des coachs qui vont commencer là-dedans. Puis, tu sais, on est les. Écoute, je suis moi-même coupable d'avoir chialé sur l'industrie des coachs, des fois, de trouver, mettons, qui se lançaient dans le milieu sans avoir assez de connaissances. Ben, crime, à la place de chialer, ben, on va leur offrir des outils puis la possibilité de se former avec des gens qui sont déjà dans le milieu, tu sais. Fait que moi, je vais encourager tout le monde, que ce soit moi, que ce soit Mathieu Bouchard avec son académie, que ce soit Christian Thibodeau, que ce soit, écoute, name n'importe quel expert, je vais toujours encourager d'aller vers ces services-là parce que la formation, bien évidemment, c'est important. Puis, je pense que si les coachs qui se lancent dans ce milieu-là sont plus formés, bien évidemment, l'industrie en tant que telle va garder une meilleure réputation. Ça, c'est important pour tout le monde.
T'sais, au final, là, quand on est coach, là, moi, je pense qu'au Québec, là, on a tellement, puis en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais on a avantage à comme se faire un réseau puis se tisser serré, parce qu'au final, notre ennemi, là, on a parlé tantôt, là, c'est la sursédentarité, c'est toutes les fast-foods, c'est l'alcool, c'est le tabac. On sera jamais assez de coach au Québec, puis il n'y aura jamais assez de personnes qui aident les gens réellement à transformer leur vie. Pour combattre toutes les multinationales, puis où est-ce que la société s'en va. Fait qu'il en faut là, du monde qui aide le monde.
Absolument. Je veux dire, je pense que le message, l'idée, c'est de faire passer le message de manière claire. Puis plus les coachs sont capables de livrer ce message-là de manière évidente pour le commun des mortels, ben c'est là qu'on va gagner graduellement.
Oui, puis moi, je pense que le rôle d'un entraîneur, ben, de coach, comme on le fait un peu, puis qu'on aide les gens. Comme on en parle, il y a 30 ans, je pense que c'était plus optionnel ou bien c'était comme Mais moi, je pense que là, on l'a vu avec la pandémie aussi, puis où est-ce que ça s'en va? C'est comme notre rôle est comme fucking essentiel, là, sérieusement.
Ben, c'est parce qu'on a un rôle qui a plusieurs volets. Hein. Tu sais, je veux dire, on parle de nutrition, oui, mais tu sais, le coach en tant que tel, lorsqu'il va prendre en charge la nutrition de quelqu'un, c'est qu'il regarde aussi le volet général, la personne, ses habitudes de vie, le volet psychologique, tout OK. Donc, c'est important de rester dans sa sphère professionnelle, dans le sens qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes ou quoi que ce soit, sauf qu'il faut prendre en charge quand même tout cet aspect-là, puis faire casse-tête qui se tient avec ça, tu sais. Fait que en effet, le rôle est important.
Exact. Mais, moi, je vais tout mettre les liens dans la description du podcast, là, ça fait que les gens peuvent te suivre, Thumbs up aussi sur Instagram, tu donnes du Christy de bon contenu. Je t'allais voir ça tantôt. Fait que ça va clairement aider les gens. Fait que allez suivre Steph là, sur la voie du contenu. Merci Stéphane, c'était vraiment cool.
Merci de m'avoir reçu, Alex.
Yes, peut-être une partie 2 dans les prochains mois. Why not? On keep in touch.
All right.
Yep. Merci.
Salut là.